C'était un plaisir d'être encore avec vous ce matin. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais très brièvement résumer ce que nous avons vu en Galates. Et puis, on va terminer sur le dernier chapitre de cette épître. Paul a écrit l'épître aux Galates parce qu'il y avait une situation très préoccupante dans les églises de la Galatie. C'est qu'il y avait des faux docteurs, des enseignants qui étaient arrivés dans la région après les écrits de Paul et qui enseignaient à l'Église que pour être un chrétien, il fallait, pour être agréable à Dieu, pour être sauvé, il fallait non seulement croire à l'Évangile, mais il fallait aussi se faire circoncire, suivre des pratiques de la loi de Moïse. Et donc, l'idée qui revient tout au long de cet épître, c'est que cela est faux, qu'on n'est pas sauvé par la loi de Moïse, que la loi de Moïse n'est plus en vigueur, qu'elle a servi son but, qui était de conduire les hommes à Christ, de leur montrer le besoin d'un sauveur, mais que absolument on n'est pas sauvé par les œuvres ordonnées par la loi de Moïse. Il a passé presque cinq chapitres à parler de cela et aussi à défendre son apostolat parce qu'il y avait une tactique des faux docteurs. C'était non seulement de s'attaquer à l'idée que l'Évangile était suffisant pour sauver, mais aussi il s'attaquait à l'autorité de Paul. Il disait que Paul n'est pas un apôtre comme les autres. S'il est même apôtre, c'est juste peut-être dans le sens de quelqu'un qui a été envoyé, mais pas dans le sens de quelqu'un qui a reçu son message par inspiration de l'Esprit. Alors, donc, Paul passe du temps au début de l'Épître à se défendre dans cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'il est vraiment apôtre, qu'il a appris l'enseignement qu'il donnait directement de la part de Dieu. Il n'a jamais eu d'occasion pour vraiment être formé par les autres apôtres. Donc, il a l'autorité d'enseigner de la part de Dieu. C'est ça. OK. Donc, on va passer au chapitre 6. Et on n'a pas de cliqueur, mais ce n'est pas grave parce que je peux le faire ici, Justin. OK, d'accord. OK. Nous allons lire chapitre 6, les versets 1 à 5. 5, là, c'est juste un résumé, et puis on reviendra pour voir verset par verset. Paul dit ici, Galates 6, partie du verset 1. Frère, si un homme vient à être sauvé. Bon, je m'arrête juste pour dire que, en fait, Paul a déjà terminé la partie doctrinale. Ici, c'est des conseils pratiques sur différents sujets. Il va revenir quand même par-ci, par-là, dans ce chapitre, sur le thème de l'Épître, mais en général, on a déjà traité la question de la loi. OK. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. OK. Comme vous voyez, il y a une interdépendance des chrétiens qui ont besoin de s'entraider humblement et par toutes sortes d'aides, y compris la correction. Donc, le premier exemple, c'est vous qui êtes spirituel, redressez si quelqu'un vient à tomber dans une faute. Être spirituel, évidemment, ne veut pas dire être sans faute, être parfait. Oui, il faut être fidèle en Christ. Mais personne n'est parfait. Si le sens de vous qui êtes spirituel était vous qui n'avez pas de défauts, le reste de la phrase serait inutile parce que personne ne pourrait jamais la mettre en pratique. Okay? il est vrai que si je suis coupable de d'une faute, ça ne passe pas bien si moi j'essaie de corriger quelqu'un d'autre qui est coupable de la même faute. Okay? Il faut être un chrétien fidèle, mais en même temps, il faut chercher à aider les uns les autres. Redresser, c'est de restaurer à sa condition précédente. Cela ne suppose pas la sévérité, ça veut dire simplement qu'on essaye de ramener la personne là où elle était, là où elle a besoin d'être, sur le plan spirituel. Et bien sûr, j'insiste sur le fait de le faire avec douceur. Il y avait un prédicateur noir chez nous qui s'appelait Marshall Keeble. Il a baptisé 40 000 personnes au cours de son ministère. Vraiment exceptionnel. Mais une chose qu'il disait, bon, il y avait deux choses que je retiens. Une, c'est qu'il a dit qu'il n'a jamais amené quelqu'un à se convertir sans le fâcher d'abord. Parfois, les gens vont se fâcher quand on leur présente la vérité. Mais une autre chose qu'il a dit, c'est que vous pouvez dire à un homme tout ce que vous avez besoin de lui dire du moment qu'il sait que vous l'aimez. Si la personne sait que vous l'aimez et que vous cherchez son intérêt, vous pouvez lui dire les choses même difficiles à entendre. Donc, si c'est avec un esprit de douceur, avec un esprit d'amour, nous pouvons aider nos frères et nos sœurs qui tombent en quelque faute. Il dit au verset 2 de porter les fardeaux les uns des autres. Et le fardeau peut être comme ce qu'il vient d'évoquer au verset 1, si quelqu'un est tombé est pris dans une faute. Ça peut être un péché. Le péché avec lequel on lutte, ça peut être un fardeau. Ça peut aussi être une épreuve. Ça peut être un besoin matériel. Et on doit s'entraider. Dans l'Église, on ne devrait pas trouver l'attitude du monde. Ça, c'est son problème. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Parfois, nous ne nous rendons pas compte à quel point il y a l'amour et la solidarité dans la famille de Dieu, jusqu'à ce que nous-mêmes nous ayons des problèmes sérieux. Beaucoup d'entre vous, je savais que cette assemblée, comme beaucoup d'autres, ont prié pour moi et ma femme pendant que ma femme était malade du cancer. Ma femme a dit que avant cette épreuve, elle pensait parfois que l'Église ne faisait pas assez pour ceux qui avaient des problèmes. Et elle a dit que je me repens de cette opinion parce que nous-mêmes, on a bénéficié tellement de l'amour et de l'aide des frères et sœurs qui nous aidaient à porter notre fardeau, en nous apportant de la nourriture, en restant auprès de ma femme pour que moi je sois libéré faire des courses, pour la transporter, pour les rendez-vous médicaux, pour payer les factures, toutes sortes d'aides. On nous a aidés à porter ce fardeau. Et je pense que si un jour vous-même vous avez des problèmes, des fardeaux, vous allez découvrir ce même amour. Mais il faut dire que il faut permettre aux autres aussi de nous aider à porter les fardeaux. Parfois, on ne reçoit pas l'aide parce qu'on n'accepte pas l'aide ou bien parce qu'on veut être tellement privé dans sa vie, même avec ses frères et sœurs en Christ, que les autres ne sont pas au courant qu'on est vraiment en train de lutter avec telle ou telle situation. Donc, nous avons besoin d'un esprit de partage en tout moment. Certaines personnes pensent voir un conflit, une contradiction dans la Bible. Parce que quelques versets plus tard, vous avez peut-être remarqué au verset 5 que Paul dit « Chacun portera son propre fardeau ». Après avoir dit « Portez-vous les fardeaux les uns des autres », il dit « Non, chacun portera son propre fardeau ». Malheureusement, en français, c'est le même mot « fardeau » qui est employé, alors qu'en grec, c'est deux mots différents. Et l'un se réfère à quelque chose de très gros, de très lourd, qu'une personne aurait vraiment du mal à porter, alors que l'autre mot se réfère peut-être à un sac à dos, quelque chose qui est certainement qu'on peut assumer soi-même et qu'on devrait assumer. Ça se réfère peut-être à la responsabilité personnelle, individuelle, que chacun peut avoir dans sa vie. Donc, ce n'est pas vraiment un conflit. Pour revenir au verset 2, quand il dit portez les fardeaux les uns des autres, il dit que vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ qui se résume, bien sûr, dans le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Malgré la grâce dont Paul a parlé dans cette épître, malgré le fait que la loi de Moïse n'est plus en vigueur, cela ne veut pas dire que le chrétien ne vit pas sous une loi morale et spirituelle. Nous sommes toujours sous la loi de Christ. Et cela est important. Parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont dit que, bon, il y a la grâce, donc bon, ça couvre tout. Au mois de juillet, j'étais en Nouvelle-Calédonie, c'était en Polynésie, pour évangéliser. J'ai rencontré une femme qui me disait que, bon, ce que moi je comprends, c'est que Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, pour tout le monde, donc moi je peux faire ce que je veux, parce qu'il a déjà payé le prix, donc c'est fini. Elle n'a pas compris qu'on est toujours sous une loi. La grâce n'est pas pour nous livrer à une vie mondaine et égoïste. Non, il y a quand même une loi. Alors, au verset 3 et 4, il dit « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il soit rien, il s'abuse lui-même, c'est-à-dire il se trompe, que chacun examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. » S'il pense être quelque chose, oui, nous sommes quelque chose dans le sens où Dieu nous a aimés. Dieu a attaché une grande valeur à chacun de nous. Nous sommes quelque chose dans ce sens. Mais ici, il veut dire que si quelqu'un pense être fort, il pense qu'il se suffit en lui-même, il n'a pas besoin des autres, non, il se trompe. Nous avons tous besoin de l'aide de frères et sœurs. C'est aussi une raison pour laquelle, surtout peut-être pour les jeunes chrétiens ou autres, mais si vous pensez déménager, allez vous installer quelque part et qu'il n'y a pas d'église là où vous allez, non, réfléchissez bien avant de prendre cette décision. Cherchez s'il n'y a pas une possibilité de travail ou d'études quelque part où vous savez qu'il y a une assemblée fidèle à laquelle vous pouvez appartenir, parce que vous avez besoin, vous n'êtes pas aussi fort que vous ne le pensez. On a besoin d'être entouré de frères et sœurs pour nous aider. Alors là, si on s'examine soi-même, bon, on aura le sujet de se glorifier pour lui seul. La base de sa joie, de cette gloire, dans ce cas, ne sera pas sera qu'on a trouvé quelque chose de positif dans sa propre vie, par la grâce de Dieu, mais non pas, la joie n'est pas le fait qu'on se voit supérieur à quelqu'un d'autre. On est en train de s'examiner, on n'est pas en train de faire une comparaison. Et vous savez, ça, c'est la base de l'orgueil, n'est-ce pas? L'orgueil existe quand on peut faire une comparaison. On n'est pas fier d'être intelligent. On est orgueilleux ou fier d'être plus intelligent que les autres. Si tout le monde est, on n'est pas fier d'être riche. La fierté, l'orgueil, vient du fait que je suis plus riche que ces autres. Si tout le monde avait la même richesse, en quoi est-ce qu'on pourrait se glorifier de cela? Le problème de l'orgueil, c'est qu'on se compare, on est en compétition avec les autres. C'est l'attitude qu'il faut éviter. Prenons les versets 6 à 10. Ici, Paul dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relassons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Bon, le résumé de ces versets que j'ai mis, c'est rien de ce qui a été dit concernant l'affranchissement de la loi de Moïse ne doit être compris comme une suggestion que nos choix et nos actions, surtout ceux qui sont égoïstes, n'ont pas de conséquences éternelles. Nous devons faire du bien envers les autres. Il commence avec cet exemple, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est un principe, je pense, que l'Assemblée de Genève a déjà compris. J'en suis content parce qu'il y a beaucoup d'assemblées qui sont très lentes à comprendre cette idée qu'il est normal que nous qui bénéficions de l'enseignement d'un frère, que nous aidions ce frère avec ses besoins pour qu'il puisse se donner réellement à plein à ce travail pour le Seigneur. Si je prends le temps de souligner cette idée, c'est parce que peut-être que l'Assemblée de Genève assiste des assemblées ailleurs dans le monde. C'est le cas dans l'Assemblée où je suis. Nos frères et sœurs dans notre assemblée, bon, ils donnent généreusement et on soutient ceux qui travaillent pour nous à plein temps parmi nous pour enseigner la parole. Mais on soutient aussi beaucoup d'œuvres missionnaires ailleurs dans le monde. Et là, parfois, on oublie ce principe. Parce qu'on n'enseigne pas à ceux qui sont convertis dans ces différents lieux que, voilà, vous qui recevez l'enseignement, vous avez le devoir de soutenir ceux qui vont évangéliser parmi vous. Et ainsi, nous faisons à leur place ce qu'ils devraient faire et nous créons des assemblées qui sont dépendantes, qui ne donnent pas selon leurs possibilités et qui donc ont toujours besoin d'une aide venant de l'extérieur, tout simplement parce que ce principe de base, que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, c'est ceux qui reçoivent qui devraient aussi donner pour soutenir l'enseignant. Celui qui l'enseigne, il rend un service véritable, un vrai service aux gens. Il a le droit d'accepter un soutien financier, même s'il n'en a pas le devoir. C'est-à-dire, il n'y a rien de mal si un évangéliste dit « Merci, mais je n'ai pas besoin de que l'Église me donne quelque chose. J'ai d'autres moyens. » Ou bien, peut-être que j'ai un autre travail. Ou bien, de toute façon, je ne suis pas obligé d'accepter un soutien. Mais certainement, il n'y a rien de mal si un frère qui enseigne le fait. Il y avait une autre idée que je voulais y ajouter, mais ça me passe. Donc, on continue. OK, au verset 7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, les choix et les actions que nous posons ont des conséquences inévitables dans plusieurs domaines. Il y a des conséquences en ce qui concerne la moralité. Nos rapports avec les autres, le comportement vis-à-vis des autorités, ce que nous donnons à l'œuvre du Seigneur aussi, il y a des retombées, il y a des conséquences. Alors, Paul parle ici de semer pour sa chair. Semer pour sa chair, c'est bon, privilégier les désirs qui se rapportent à ce monde et surtout ceux qui sont contraires à la volonté de Dieu. Semer pour la chair, ça peut signifier mener une vie immorale. Ça peut se référer à l'impureté sexuelle. Mais dans ce contexte, je pense que Paul est plutôt en train de parler de semer pour sa chair dans le sens d'être avare, d'être égoïste, de ne refuser de faire part de ses biens. Le verset 6, on a lu, il dit que de faire part de tous ses biens à celui qui enseigne. Au verset 9, il dit ne nous lassons pas de faire le bien. Verset 10, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Je pense qu'il est en train de parler de nous servir de ce que Dieu nous a donné pour faire du bien. Et si nous n'avons pas cet esprit-là, nous sommes en train de semer pour la chair au lieu de semer pour l'esprit. Il dit que là, si on sème pour la chair, on moissonne la corruption. Encore, la corruption peut se référer à l'impureté de tout genre. Si vous cédez aux tentations de l'impureté sexuelle, cela fait en sorte que votre pensée devient de plus en plus corrompue. On sème, on moissonne la corruption. Mais peut-être de façon, ça peut être simplement la mort spirituelle. Celui qui sème pour la vie, moissonne la vie, pour l'esprit, pardon, moissonne la vie éternelle. Celui qui sème pour sa chair, moissonne la corruption, c'est-à-dire la mort spirituelle. Semer pour l'esprit, c'est quoi? C'est privilégier ce qui contribue à notre vie spirituelle. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Faites en sorte de mettre en pratique ce que vous lisez dans la parole. Tout ça, c'est semé pour l'esprit. Et certainement, ça va porter de bons fruits. Verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Même si on ne vous apprécie pas, même si on ne vous félicite pas quand vous faites quelque chose, vous faites un grand effort et personne ne remarque, ne vous lassez pas. Dieu veut, Dieu sait, Dieu va vous récompenser. Même quand vous ne voyez pas davantage pendant votre vie pour ce que vous avez fait pour Dieu, ne vous découragez pas, ne vous lassez pas, continuez, persévérez à faire ce qui est bien. Parce qu'il dit, si nous ne relâchons pas, nous moissonnerons. Alors, c'est un des versets parmi tant d'autres qui nous rappelle qu'on peut perdre le salut. Si on cesse de faire des efforts pour faire la volonté de Dieu, on perd la relation qu'on avait avec Dieu. Et si on meurt dans cet état, c'est grave, n'est-ce pas? Ça, on a perdu son salut. Verset 10 dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Quand il dit de pratiquer le bien, il faut dire que la plupart des passages, beaucoup de passages dans le Nouveau Testament parlent du bien que nous devons pratiquer envers d'autres chrétiens. Et les exemples que nous voyons, par exemple dans le livre des Actes, quand on faisait de bonnes œuvres, on aidait les veuves ou on envoyait de l'aide pour les victimes de famine. C'était destiné surtout à ceux qui étaient de la famille de Dieu. Mais Paul nous dit ici que nous devons faire du bien envers tous. Ce n'est pas seulement les membres de l'Église, les saints. Ce n'est pas seulement les membres de notre famille. Ce n'est pas seulement les gens que nous côtoyons. Nous devons penser à tous ceux qui peuvent être dans le besoin et être prêts à les aider. Mais il dit, surtout, il y a quand même une priorité, surtout envers les frères en la foi. Il dit qu'il y a des sortes de favoritismes qui sont normales. Par exemple, un homme doit plus d'amour et de protection à son épouse qu'à d'autres femmes, n'est-ce pas? On a plus de responsabilité de nous occuper de nos parents âgés que des parents âgés des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider les parents des autres, mais si nous avons nous-mêmes des parents qui ont besoin de notre aide, nous devons les privilégier. C'est un favoritisme que Dieu a pour. Il ordonne même. Donc, quand il s'agit de l'aide, si les moyens sont limités et qu'il y a des frères et sœurs qui sont vraiment dans le besoin, mais aidons les frères et sœurs d'abord. C'est simple. OK, prenons les versets 11 à 18, dernière pensée de Paul ici. voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, là nous revenons au terme de l'Épître, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre terre. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Bon, ces dernières pensées dans cette citation, il dit au verset 12, « Ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Paul dit que ces faux docteurs qui travaillaient parmi les Galates, ce n'était pas le salut des Galates qui les préoccupait, mais c'était pour des raisons égoïstes, c'était pour des intérêts personnels qu'ils étaient en train d'enseigner ce qu'ils enseignaient. Ils se protégeaient de la persécution de leurs frères juifs. Vous savez, souvent, quand nous pensons à l'Église au 1er siècle et qu'on nous parle du fait que les chrétiens étaient persécutés, nous pensons premièrement peut-être à la persécution romaine, les empereurs romains qui ont voulu détruire l'Église, et ça certainement c'est le thème dans le livre de l'Apocalypse. Mais dans beaucoup de livres des Actes, la persécution des chrétiens venait plus tard de la part des Juifs. Donc, si ces faux docteurs étaient en train d'amener des païens à se faire circoncire, ce serait vu peut-être comme si, bon, ce ne sont pas de mauvais gens, après tout, ils sont en train de faire des convertis au judaïsme, parce que ces gens se convertissent et puis suivent la loi de Moïse. Et donc, on va, même si on n'est pas d'accord sur tous les points, peut-être on ne va pas les maltraiter, ça va. De toute façon, Paul dit que leur intérêt, ce n'était pas de sauver les Galates, c'était de se protéger eux-mêmes des conséquences. Il dit les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Et là, je pense que Paul veut dire qu'ils n'observent pas, ils n'observent que certains aspects de la loi. Il y a des parties de la loi qu'ils n'observent pas. Peut-être qu'ils ne faisaient pas des sacrifices pour le péché. Peut-être qu'ils ne faisaient pas des pèlerinages à Jérusalem, je ne sais pas. Mais je vois dans le chapitre 5, verset 3, que Paul suppose qu'ils ne veulent pas pratiquer toute la loi parce qu'il dit, je dis que celui qui se fait circoncire est tenu de pratiquer la loi tout entière. Comme si ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait imposer certaines parties de la loi, mais pas toute la loi. Comme nous avons vu hier, l'homme n'a pas le droit de trier. Soit la loi de Moïse est en vigueur, et dans ce cas, tout le monde devrait obéir à tout ce que cette loi ordonne. Soit cette loi n'est pas en vigueur, et dans ce cas, on n'a pas le droit d'imposer les ordonnances de la loi mosaïque à l'Église ou aux chrétiens. Donc, je pense que c'était certains éléments de la loi que ces faux docteurs voulaient enseigner. C'est pour cela que Paul leur dit cela. Au verset 14. Donc, eux, ils voulaient se glorifier de votre chair. Au verset 13, je pense. Oui. Peut-être. Non, ce n'est pas au verset 13. Non, mon problème, c'est que je regarde au chapitre 5. C'est ça mon problème. OK.
Verset 13, il dit car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ok, c'est-à-dire, c'est comme des trophées. Chaque fois qu'un païen se fait circoncire, c'est un sujet de gloire pour eux. Il dit pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut se glorifier, non pas des choses dont les gens du monde se glorifient, telles que la richesse, la force, la beauté, les accomplissements, son niveau d'instruction. J'ai une citation que j'aimerais vous lire. Ça vient d'un commentateur anglais qui s'appelle Albert Downs. Il dit qu'il ne se glorifierait pas d'un tel sauveur en comparaison. Les choses dont les hommes ont l'habitude de se vanter sont de la bagatelle. Ne nous glorifions pas de notre richesse, nous en serons bientôt séparés, et elle ne pourra guère nous aider dans ce qui nous attend. Elle n'éloignera pas la maladie, elle ne permettra pas de supporter la douleur, et n'adoucira pas la mort. Ne nous glorifions pas de notre force, car elle nous fera bientôt défaut. Ni de notre beauté, car nous ne serons pas distinguables. Est-ce que c'est un mot en français, distinguable? Okay. Comme c'est moi qui ai traduit là, le passage, je n'étais pas sûr d'avoir bien traduit. Nous ne serons pas distinguables l'un de l'autre dans la pourriture du tombeau, ni de nos accomplissements, car ils ne nous sauveront pas, ni de notre niveau d'instruction, car ce n'est pas ce qui nous fera accéder au ciel. Glorifions-nous plutôt de ce que nous avons pour Sauveur, le Fils éternel de Dieu. Cet être glorieux adoré par les habitants du ciel, celui qui fit les mondes et qui mourut pour nous sauver. Je ne désire pas de plus grand honneur que d'être sauvé par le Fils de Dieu. Rien ne me montre plus clairement ma vraie dignité et la valeur de ma vie que cette réalité. Quelqu'un de si grand et de si glorieux a voulu me racheter. C'est très beau et c'est bien de réfléchir aux choses qui nous obsèdent parfois parce que c'est un sujet de gloire devant les hommes, mais ça n'a pas vraiment de valeur quand on regarde les choses du point de vue éternel. Et c'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous devrions toujours faire, regarder les choses du point de vue de l'éternité. Ensuite, Paul dit dans ce verset que pour Christ, le monde est crucifié pour moi. Cela veut dire que Paul était vraiment insensible aux attraits du monde. Les choses du monde qui auraient pu l'attirer, ça n'avait pas d'intérêt pour lui. Il dit, mais comme je le suis aussi pour le monde, il faut dire que c'était mutuel, ce manque d'intérêt. Parce que le monde n'estimait pas Paul. Le monde, Paul lui-même était pour le monde un objet de mépris, de ridicule ou d'indifférence. Il faut s'attendre à cela. Si on a cette attitude à l'égard des valeurs du monde, le monde aussi fera le retour. Verset 15. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est être en Christ. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Alors, comment est-ce qu'on peut se trouver en Christ? En Romains, Paul dit que celui qui est baptisé en Christ est mort avec Christ. Et dans ce passage, c'est-à-dire dans cet épître, au chapitre 3, verset 27, au Galates, Paul avait dit, tous ceux qui ont revêtu Christ, qui ont été baptisés en Christ, pardon, ont été baptisés en Christ, ont revêtu Christ. Comment on devient une nouvelle créature? C'est quand la personne qui croit sincèrement que Jésus est le Fils de Dieu et qui se repent de ses péchés et confesse devant les autres que Jésus est le Fils de Dieu. Quand cette personne obéit maintenant à l'ordre du Seigneur de se faire baptiser, immerger pour le pardon de ses péchés, il devient par là une nouvelle créature, il est de nouveau. Et c'est cela qui a de la valeur. C'est cela qui compte selon le verset 15 ici. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Christ. Même au verset 16, il dit ceux, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Ceux qui suivront cette règle, c'est ceux qui reconnaissent ce principe qu'il enseigne depuis le début de l'Épître, c'est que être juif ou païen n'est pas une barrière à une relation avec Dieu, que le salut est pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas pour ceux qui obéissent à la loi de Moïse que les judaïsans voulaient imposer. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature et c'est cette règle que tu dois suivre. Maintenant, il dit, fais miséricorde sur ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. Qu'est-ce que l'Israël de Dieu? Bon, comme vous voyez sur l'écran, c'est l'Église. Aujourd'hui, l'Israël de Dieu n'est pas le peuple juif, ce n'est pas l'État d'Israël au Moyen-Orient. L'Israël de Dieu, c'est l'Église. Regardons ces versets rapidement. Et à propos de Justin, tu peux me dire quand le temps est... J'ai jusqu'à quelle heure? 5 minutes? J'ai 10 minutes. 5 à 10 minutes, ok. D'accord, ça c'est facile, on a presque terminé. Romains chapitre 9, verset 6. Ah oui. Là, il dit, ce n'est point Dieu que la parole de Dieu soit restée sans effet. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ce n'est pas le lien physique qui compte. C'est plutôt avoir la foi d'Abraham, par exemple. Regardons dans Philippiens chapitre 3. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, c'est-à-dire à l'observance de la loi de Moïse. Les circoncis, spirituellement, c'est nous. C'est l'Église, c'est les chrétiens. Et puis, Philippiens 3, verset 29, que nous avons vu hier matin. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous n'êtes pas à Christ, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham, quels que soient vos parents, qui qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient juifs ou pas. Si vous n'êtes pas à Christ, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Mais si vous êtes à Christ, oui. Donc l'Israël de Dieu, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Alors, Paul dit maintenant au verset 17, on est pratiquement à la fin. Il dit, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Quand il dit qu'il ne me fasse de la peine, peut-être c'était dans le sens où... dans le premier chapitre, il y avait des gens qui apparemment disaient que Paul cherche la faveur des hommes. C'est-à-dire qu'on le critiquait, on mettait en doute sa sincérité. Il dit non, qu'on ne me traite pas comme cela, parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alors là, je ne pense pas qu'il voulait dire que j'ai des gens saints qui ont des marques dans les paumes des mains. Je veux dire, il avait certainement des cicatrices de différentes fois où on l'avait battu, on l'avait fouetté, on l'avait maltraité, physiquement on l'avait lapidé. Il avait certainement des marques sur son corps qu'il avait reçues tout simplement parce qu'il prêchait fidèlement la parole de Dieu, parce qu'il prêchait la croix de Christ. Donc, qu'on ne me fasse pas la peine, qu'on ne mette pas en doute ma sincérité. Voilà, les preuves sont ici dans mon corps. J'espère Dieu vraiment de tout mon cœur. Et vous le reconnaissez. Et là, c'est la fin de ce que j'avais préparé pour Galates.